Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
On sauve ce qu'on peut sauver et puis le reste, bah, c'est poubelle. C'est du matériel, on va dire, entre guillemets. Mais bon, ça fait mal quand même.
Une longue journée de nettoyage commence pour les sinistrés du Gard. Malgré le mauvais temps, des nageurs se sont aventurés hier en mer. Bilan, 9 personnes sont mortes noyées, piégées par une mer déchaînée. Rien de personnel, la justification glaçante de Salah Abdeslam face aux victimes des attentats du 13 novembre. Pour la première fois depuis le début du procès, l'accusé a été autorisé à prendre la parole. Et puis vous, ce matin, comment allez-vous accompagner vos enfants à l'école? Eh bien, la marche à pied gagne du terrain, c'est ce que révèle un sondage IFOP, des habitudes bousculées par la crise sanitaire. Et le journal de 6 heures vous est présenté par Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Une journée noire sur le littoral méditerranéen. 9 morts noyés en une seule journée dans l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Des seniors imprudents partis se baigner hier dans une mer démontée, piégée par la houle et les vents violents.
La vigilance orange est levée ce matin dans tous les départements, y compris dans le Gard, déclaré en état de catastrophe naturelle dès la semaine prochaine.
De quoi faciliter l'indemnisation des sinistrés. Parmi eux, il y a Aurélie qui vit à Huchot, un village traversé hier par un torrent d'eau. Cette mère est seule avec ses deux enfants dans un appartement en rez-de-chaussée dévasté par les eaux.
Non, on ne peut pas rester, c'est pas possible, c'est pas vivable. Tout est humide, les parquets gondolent, c'est pas possible, il faut que ça sèche, faut tout refaire. Quoi.
Avec
les filles, oui, c'est filles de 8 ans et 13 ans, c'est pas possible de rester là. Oui, en attendant, oui, on va se faire loger. Bah, tout est foutu, quoi. Tout, voilà. Donc, on fait des grands nettoyages. Tout, le lit, les canapés, machine à laver, frigo, tout est foutu. Oui, on sort tout, on nettoie, on essaye de récupérer le maximum, mais bon, c'est on sauve ce qu'on peut sauver et puis le reste, bah, c'est poubelle. Je m'attendais pas à autant, quoi. C'est du matériel, on va dire, entre guillemets. Mais bon, ça fait mal quand même.
Le témoignage d'Aurélie, sinistrée du Gard, au micro européen de Stéphane Burgat.
C'était l'un des leaders du groupe État islamique au Sahel et il a été tué par l'armée française. Annonce d'Emmanuel Macron cette nuit sur Twitter. Un succès majeur salué par le chef de l'État.
C'est la première fois qu'ils étaient autorisés à prendre la parole. Au 6e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, les 14 accusés présents se sont expliqués hier.
Certains ont minimisé, d'autres ont nié même leur implication dans cette soirée d'horreur. Salah Abdeslam, lui, a choisi d'assumer des propos glaçants, insupportables pour les rescapés et les familles des victimes. Gladys Laffitte.
Sa déclaration a duré moins de 5 minutes. D'un ton inhabituellement très calme et très poli, Salah Abdeslam a expliqué à la cour et aux victimes présentes que si les terroristes avaient visé la population et les civils, cela n'avait rien de personnel. Ce ne sont pas les valeurs de la France qui ont été attaquées selon lui, mais la France elle-même pour son engagement dans la guerre en Syrie. C'est la première fois en 6 ans que l'accusé s'exprime vraiment et assume. Un discours dur à entendre pour les victimes dont certaines ont fondu en larmes dans la salle. Maître Gérard Chemla est l'avocat de 130 parties civiles.
C'est sa partition, c'est désagréable, mais c'est comme ça, il va falloir faire avec. Et on ne va pas le condamner parce qu'il revendique, on va le condamner pour ce qu'il a fait. Maintenant, rappelons-nous que le premier attentat important en France, c'est Mohamed Merah, et qu'à ce moment-là, il n'était pas question de bombarder qui que ce soit, et qu'on est en réalité dans une constante du terrorisme.
D'autres accusés ont montré de la compassion pour les victimes. Un autre a reconnu sa participation aux attentats, je cite, tout en minimisant son rôle. Tous seront interrogés sur les faits qui leur sont reprochés à partir du début de l'année 2022.
Le récit de Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
C'est l'une des informations de la nuit. L'Australie torpille l'accord conclu avec la France, une commande de 12 sous-marins.
Et surtout un contrat à plus de 31 milliards d'euros parti en fumée. L'Australie préfère se fournir auprès des Américains et des Britanniques. Un nouvel accord militaire pour faire face à la Chine.
6h04 sur Europe 1 avec la suite du journal de Romain Hoquet. La rentrée européenne, c'était hier à Strasbourg.
Une reprise marquée par le discours de la patronne de la Commission, Ursula von der Leyen. Dans 3 mois, la France prendra la présidence de l'Union européenne. Et justement, Isabelle Horry, dans son discours, Ursula von der Leyen a repris des thèmes chers à Emmanuel Macron.
Oui, c'est vrai que les planètes ont l'air de s'aligner. Les idées françaises ont clairement la cote à Bruxelles. Prenons la défense européenne. Ursula von der Leyen a annoncé qu'il y aura un sommet des chefs d'État sur le sujet pendant la présidence française. Et l'ex-ministre allemande de la Défense s'est lancée dans un plaidoyer pour plus d'autonomie vis-à-vis des États-Unis, inimaginable il y a quelques années.
L'Europe peut et clairement devrait faire plus toute seule. Ce qui nous a retenus jusqu'ici, ce n'est pas seulement un manque de moyens, c'est un manque de volonté politique. Si nous en avons la volonté, nous pouvons faire beaucoup au niveau européen.
Plus concrètement, elle propose qu'il n'y ait pas de TVA prélevée sur les achats d'armements fabriqués en Europe, une manière de dissuader d'acheter américain. La présidente de la Commission a aussi insisté sur la souveraineté industrielle, autre thème cher à la France. Elle promet une loi sur les semi-conducteurs pour augmenter les capacités européennes et réduire la dépendance vis-à-vis du reste du monde. Dans l'hémicycle, le commissaire français Thierry Breton était tout sourire.
L'éclairage d'Isabelle Horry, envoyée spéciale à Strasbourg pour Europe 1.
L'Europe qui ouvre aujourd'hui la semaine de la mobilité, un rendez-vous organisé dans plusieurs pays pour réfléchir à nos modes de transport.
Et parmi les trajets que l'on fait tous les jours et peut-être même en ce moment, il y a celui entre notre domicile et l'école de nos enfants. D'après un baromètre IFOP, si la voiture reste l'option privilégiée, eh bien la marche à pied gagne du terrain. Aurélien Fleureau.
Des distances courtes, moins de 2 km dans 40% des cas, mais c'est pourtant la voiture qui est l'option numéro 1, talonnée désormais de près par la marche pour 31% des personnes interrogées. Parmi les explications, le bénéfice pour la santé, une preuve que les messages sur les risques du manque d'activité physique chez les jeunes commencent à faire effet, se réjouit Bertrand Dumas, responsable du projet Mobi lancé par l'entreprise EcoCO2, mais c'est aussi cette année une conséquence de la crise sanitaire.
On voit que l'usage des transports en commun, en dehors du transport scolaire, hein, vraiment les transports en commun classiques, on va dire, sont en baisse pour ces transports-là. Ils ont perdu 4 points. Il y a un effet Covid, hein, c'est-à-dire que les parents ont préféré ne pas utiliser des transports où les enfants étaient assez proches les uns des autres et se sont plutôt reportés sur la marche.
L'impact sur l'environnement fait aussi partie des préoccupations principales des parents, mais c'est surtout l'aspect sécurité qui est primordial et qui explique ce choix vers des modes de déplacement plus rassurant pour des courtes distances, la voiture, la marche, l'écart scolaire, alors que le vélo et le covoiturage restent très marginaux, à peine 3% à eux deux.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
C'était le journal de Roman Hockey, merci Roman.